Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Radio X.
The church teaches us that the devil can appear in many guises, manifest himself in different forms.
The papers only mention four victims.
Those were the four we couldn't hide.
Why are you preserving the corpses?
That's the reason you're here.
That day, I learned it is true.
It is my duty to request that you assist us in identifying the remains of this young girl.
It's not the wolf you should be frightened of. Roma Santa is not a man.
Who are you? Killing more and more people.
La nuit tombe différemment sur Québec les vendredis avec les Radio X-Files à 19h, presque 4 minutes. Je vous souhaite la bienvenue. C'est pas un secret pour les auditeurs de longue date. Les jeudis étaient autrefois mes soirées préférées à l'antenne. Et là, on reprend ça les vendredis, un vendredi sur quatre. Et c'est l'épisode le premier officiel de la thématique, soit des tueurs en série ou des tueurs de l'occulte. Et je suis très contente du planning que nous a préparé l'animateur, M. Christian Page, soirée sataniste et loup-garou. Mon cher Christian, je te souhaite la bienvenue à l'antenne.
Ben merci. Je dois t'avouer que moi aussi, hein, les soirées qui tournent autour des crimes, tout ça, c'est un peu... Mais ça et les grandes énigmes de l'histoire, ce oui. sont deux sujets qui me passionnent beaucoup. Et je sais que je me répète, mais parce que dans un cas comme dans l'autre, on a du matériel.
Ouais.
Hein, on a du matériel sur lequel on peut se pencher pour essayer d'avoir une réflexion constructive. Alors que lorsque l'on parle de phénomènes de cryptozoologie ou de phénomènes de fantômes ou d'ovnis, ça veut pas dire que le sujet n'est pas intéressant, mais dans bien des cas, on n'a pas de matériel à se mettre sous la main. On doit composer avec des témoignages. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais repris un amateur d'ovnis qui disait, moi, je suis ufologue et j'enquête sur les ovnis. Non, tu n'enquêtes pas sur les ovnis. Tu enquêtes sur les témoignages. Témoignages d'OVNI. Hein, ce sont des gens qui rapportent avoir vu des ovnis, mais dans le fond, l'OVNI, on ne l'a pas sous la main. Et c'est exactement la même chose pour les phénomènes de hantise ou de poltergeist. C'est rare qu'on ait le phénomène sous la main. On doit donc s'en remettre à des témoignages et essayer de décanter ce qui est vérifiable, ce qui ne l'est pas, et dans quelle mesure certaines de ces manifestations ont pu être enregistrées ou observées dans des conditions contrôlées.
Et j'aime ce soir, tu nous amènes dans deux époques.
Oui, deux époques qui sont très différentes. D'ailleurs, pourquoi j'ai décidé de te parler un peu de Roma Santa? Ben parce que Roma Santa, j'en ai déjà parlé dans une émission précédente, alors que j'animais cette émission, co-animais cette émission avec Marceau. Donc, je voulais pas consacrer entièrement l'émission là-dessus, mais je voulais en même temps te partager mon enthousiasme, parce que, bon, au moment où on a recommencé cette saison, je t'ai annoncé que j'allais, pour mon prochain livre, Les grandes fraudes du paranormal, doit sortir en librairie. On a la date maintenant. Le livre va sortir en librairie le 18 octobre prochain. Ça, c'est pour les grandes fraudes du paranormal. Maintenant, dans un aspect qui t'intéresse davantage, je travaillais sur une encyclopédie du crime.
Oui.
Qui existe déjà en version anglaise, qui sera donc traduite en français, et dans laquelle j'introduirai des tueurs canadiens, québécois et canadiens en général. Et cet ouvrage-là va sortir en mars prochain.
D'accord.
Donc l'encyclopédie du crime, c'est en mars prochain. Et à l'automne 2024, je dois sortir un tome 2 des tueurs de l'occulte. Et là, je te l'annonce comme ça, en discussion avec mon éditeur cette semaine, j'ai accepté entre les deux, donc probablement quelque part entre avril et mai, on devrait sortir une grosse brique, là, un gros pavé, qui va s'intituler « Quand les enfants tuent ». Donc, c'est des crimes qui ont été commis par des jeunes allant de 6-7 ans jusqu'à l'adolescence, là, 18-19 ans. Là. Donc, c'est dans cette trame-là, donc des crimes qui ont été commis un peu partout à travers le monde et de différents aspects. On a des crimes familiaux, donc des jeunes qui ont assassiné leur famille, des jeunes qui ont assassiné d'autres, des jeunes filles ou des jeunes hommes pour des relations sexuelles, d'autres pour des bénéfices monétaires. Donc, les tueurs, quand les enfants tuent. Et pourquoi j'ai accepté de le faire et pourquoi c'était pour moi assez facile? Ben, tout le monde le sait. Entre 2000, je te dirais grosso modo 2006 et 2010, j'ai produit 3 séries pour Canal D et Netflix qui s'intitulait Les enfants assassins ou Les enfants tueurs. Donc j'avais tout le matériel sous la main, là, j'ai pas à reprendre des investigations, j'ai fait 3 séries, j'ai fait 100% des entrevues, 100% de la scénarisation de ces séries-là. Donc j'ai rencontré les policiers qui ont été impliqués dans les histoires, dans certains cas, j'ai rencontré la famille des victimes, la famille des assassins, j'ai même rencontré les assassins, certains jeunes qui sont encore derrière les barreaux, hein. Donc j'ai fait des entrevues avec eux. Donc j'avais tout ce matériel-là. Je peux pas dire que c'était le sujet qui me fascinait le plus. Hein. J'avais lancé cette idée-là. C'est assez amusant d'ailleurs parce que je te raconte la petite pour l'anecdote. Je me retrouve à un moment donné en train de dîner avec des gens de Canal D et on parle de crimes occultes. On est en train de négocier la production de la série des tueurs de l'occulte.
Okay.
Et à ce moment-là. Le directeur de la programmation a dit « Ouais, Christian, t'es plein de bonnes idées. Ce serait le fun si tu pensais aussi à une série sur le crime en général, mais qui touche pas le domaine de l'étrange ou de l'occulte. » Et comme ça, spontanément, ça m'est venu, j'ai dit « Bah, une série sur des enfants qui tuent. » Et là, tout le monde autour de la table m'ont comme resté figé, m'a dit « Mais quelle idée incroyable! » Et c'est comme ça, donc, que j'ai produit 3 séries qui ont connu énormément de succès. Là. D'abord, dans un premier temps, en français à Canal D, diffusé ensuite en anglais sur différents réseaux, dont Investigation, et ensuite reprise sur Netflix. Donc, c'est des séries qui ont bien roulé. Mais, comme j'avais tout le matériel, mais tu sais, j'ai jamais écrit de texte autour de ça, là. J'ai pas écrit ces histoires-là. Moi, j'ai fait la recherche. On a rencontré des gens, on a fait des entrevues, on a monté la scénarisation, puis on a fait ça. Mais là, j'ai dit, tout ce matériel-là, il est où maintenant? Tu sais, il est dans des cartons chez moi. Fait qu'à partir, après avoir discuté avec l'éditeur, ben, j'ai dit, écoute, j'écris assez vite. Pour pouvoir, entre ça et les tueurs de l'occulte qui doit sortir à l'automne 2024, je pense que je pourrais facilement écrire une trentaine d'histoires de jeunes qui ont commis des crimes, puisque
c'est
je les connais bien.
C'est fascinant, ça, qu'était cette capacité d'écriture aussi. Tu nous ponds des œuvres, littéralement.
Ouais.
Plusieurs dates à l'agenda pour les auditeurs. Puis,
ouais.
Moi, c'est noté 18 octobre étant le plus près.
Ouais, puis il y a des crimes vraiment qui sont monstrueux. Tu sais, les mêmes, tu dis comment des jeunes qui avaient par exemple 12 ou 13 ans ont pu penser à commettre des crimes aussi monstrueux. T'sais. Ce qui caractérise souvent les crimes commis par des jeunes, c'est d'une part la motivation est souvent absurde. Hein, quelqu'un jeune par exemple dit je veux hériter de mes parents, fait que comme il voulait pas commettre le crime lui-même, il a demandé à ses amis de le faire.
Oh, mon Dieu.
Il a dit à ses chums, puis c'est vrai là, ce que je te raconte là, il a dit à ses chums, il dit écoute, il dit moi là ma grand-mère est riche, très très riche, puis il dit pour pouvoir obtenir si j'assassine ma grand-mère, la fortune va aller à ma mère. Puis moi, je suis le troisième en liste. C'est donc ma grand-mère, ma mère et moi. Donc, pour pouvoir hériter de la fortune de grand-maman, faudrait que j'assassine ma mère et grand-maman, les deux. Parce que si ma mère et grand-maman meurent, là, je deviens l'héritier. Alors, il convainc deux de ses amis de faire ça. Et c'est aussi absurde que ça peut paraître, il dit à un de ses amis, il dit, ben toi là, pour si tu assassines ma grand-mère et ma mère, parce qu'ils vont faire ça en duo, il dit, si vous assassinez ma mère et ma grand-mère, à l'un, je vais acheter un sabre katana, hein, genre ouais. Sabre japonais là, qu'il avait vu dans un magasin là, qui se vendait quoi, 200-300 $. Le jeune avait été, il dit, toi, je vais t'acheter ton sabre. Et l'autre voulait une bicyclette BMX, là, tu sais, le genre bicyclette motocross, là. Et tu dois, je vais t'acheter une bicyclette comme celle-là. Fait qu'en échange d'un sabre katana et d'une bicyclette, les deux jeunes sont partis, sont allés assassiner, ont fait un double meurtre. Donc, le meurtre de la grand-mère et le meurtre de la mère pour que le troisième individu puisse s'irriter.
Là, il a vendu sa famille, il a vendu sa mère, comme
ouais,
on dit.
Ouais, c'est ça. Donc, la motivation est un peu, la raison du crime est un peu absurde, t'sais. Et souvent aussi, ce qui caractérise, c'est les crimes des jeunes, c'est l'absence de réflexion après le crime. C'est-à-dire qu'ils vont tout mettre en œuvre, dire, OK, on va commettre le crime, mais une fois qu'on a commis le crime, on fait quoi, là? Après, là, ils sont ouais. là, ils se retrouvent, ils sont là, bon, OK, ils sont couverts de sang, le couteau dans une main, le marteau dans l'autre. Puis là, ils ont le cadavre devant eux, puis c'est drôle, on n'a pas pensé ce qu'on ferait avec le cadavre, tu sais. Fait que, et donc, éventuellement, ils vont commettre des erreurs grossières qui rapidement vont faire que les policiers vont être sur leur trace.
Donc, est-ce ça, c'est assez... Est-ce qu'on juge des enfants qui ont commis des meurtres de façon différente? Y a-t-il des gens de centre jeunesse?
Ça, tu vas découvrir ça dans cet ouvrage-là, mais chaque pays, et même dans le cas aux États-Unis, hein, chaque État va avoir une réglementation différente
okay.
en fonction de l'âge et du type de crime qui est commis. Mais de façon générale, je te dirais, là, il y a des exceptions, puis encore une fois, il faut retenir que les États vont avoir des règles différentes aux États-Unis, mais de façon générale, aux États-Unis et au Canada, on va, à partir de l'âge de 14 ans, si on commet un crime majeur, comme oui. un meurtre, par exemple, le jeune va être jugé devant un tribunal pour adultes. Donc, à ce moment-là, il encourt une condamnation identique à celle d'un adulte. La différence, parce qu'il est un mineur, c'est qu'il va pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle plus rapidement. Donc, par exemple, pour un même meurtre, un homme de 21 ans se verrait, par exemple, condamné à une peine de prison à perpétuité avec la possibilité d'une libération conditionnelle après 25 ans seulement. Donc, il est obligé de faire 25 ans. Alors que dans le cas d'un mineur, il va être condamné de lui une peine de prison à perpétuité, mais il va pouvoir faire une demande de libération conditionnelle après 10 ans.
Okay.
Donc, c'est ce qui joue en particulier. Au Canada, par exemple, on ne peut pas, il y a à moins de cas d'exception, il faut toujours se rappeler qu'il y a des cas d'exception, mais à moins d'un cas d'exception, on ne judiciarise pas un jeune de moins de 12 ans. Et je me suis penché sur des crimes qui avaient été commis par des jeunes de 10 et 11 ans. Et ces jeunes-là ne sont pas judiciarisés au Canada. Donc, on va regarder le crime, ils vont passer devant un tribunal, entre guillemets, de la jeunesse, mais ils seront obligatoirement différés vers un centre d'adaptation ou de réhabilitation pour jeunes, mais il n'y aura pas de dossier judiciaire, il ne sera pas retenu, il ne sera pas jugé soit coupable ou innocent, c'est simplement une forme de réhabilitation parce qu'on juge que il est trop jeune pour avoir conscience du crime qui a été commis. Ce qui
est ça a l'air assez marginal, mais ça existe.
Oui, et aux États-Unis, par contre, on a vu des cas où des jeunes de 12 et 13 ans étaient condamnés à des peines de réclusion à perpétuité. Et il n'y a pas si longtemps, aux États-Unis, on pouvait condamner à mort un jeune mineur là, de 11-12 ans qui commettait un crime, par exemple, il pouvait être condamné à mort. Il faut le dire, il n'y en a pas qui se sont produits au cours des 50 dernières années. Il y a eu des condamnations, mais il n'y a pas eu d'exécution. Les condamnations qui ont eu lieu, par exemple, où on avait condamné un jeune de 13 ans à la chaise électrique, par exemple, ou à la chambre à gaz, éventuellement, cette peine a été commuée en prison à perpétuité, mais il n'y a pas eu d'exécution de jeunes de moins de 14 ans, disons, depuis les 50 ou 60 dernières années aux États-Unis.
Il y a une bonne question éthique qui se pose. Un enfant, est-ce qu'il savait à 100% pourquoi il agissait, puis les intentions, c'est-tu prémédité, et il peut, je pense, en masse se rattraper dans la vie, là.
Ouais, il y a un cas célèbre aux États-Unis, là, je veux pas m'engager, là, mais qui nous remonte aux années 30, là, on est au milieu des années 1930. Il y a un jeune noir de, je crois, 11 ou 12 ans, qui va commettre un crime, il va assassiner, en fait, on va l'accuser d'avoir assassiné une adolescente blanche, une jeune fille blanche, et qu'il aurait assassiné pour une agression sexuelle. Et évidemment, comme c'est un noir, on est en période de ségrégation, etc. Mmh. Tu comprends que ça n'a pas été, on n'a pas fait ni un ni deux. Là. On avait besoin d'un coupable. On trouve cette jeune fille, là, 11-12 ans, qui a été assassinée. Et ça, ça donne que à deux pâtés de maison de là, il y a un petit garçon noir qui joue au dé sur le bord d'un mur. Ben c'est lui. T'sais, donc on l'arrête, puis c'est lui. Le jeune comprend pas du tout ce qui. Puis crois-le ou non, là, c'est triste. Là. Le jeune a avoué le crime en échange d'une crème glacée.
Oh ben non.
Donc les policiers l'interrogent, puis là le jeune dit moi je connais pas cette petite fille là, je sais pas, j'ai rien. En fait, il la connaissait, c'est faux, il la connaissait, mais évidemment, il a pas été impliqué dans le crime. Il dit moi, je veux dire, on fréquente, on se voit parce qu'on habite la même rue, mais fait qu'il dit pas commis le crime non. Mais là, il dit, si t'avoues le crime, on est en présence d'un garçon là qui fait partie de non seulement il fait partie de la communauté noire, mais c'est pauvre, là, c'est vraiment le ghetto là. Ben le petit gars, on lui dit si tu dis que c'est toi qui as commis le crime. Et là, le jeune, écoute, il y a 11 ou 12 ans, là, il n'y a aucune pensée de la conséquence. Là. On lui dit, si t'avoues que c'est toi qui as commis le crime, là, on va te payer une crème glacée. Le petit garçon n'a jamais mangé de crème glacée de sa vie, lui, là. Il a vu d'autres manger des crèmes glacées. Il a vécu avec le désir, l'envie un jour de goûter une crème glacée. Et là, on lui en offre une.
C'est épouvantable.
Il a admis immédiatement le crime. Donc, les autorités ont dit, ben voilà, on tient l'assassin. C'est ce gamin de 11-12 ans qui a commis le crime. Et quand il a été condamné à mort à la chaise électrique. Et quand on l'a exécuté à la chaise électrique, parce qu'on l'a exécuté, il était tellement petit, là, que quand on l'assoyait sur la chaise, là, sa tête arrivait pas au niveau du bol métallique pour l'exécuter.
C'est assez pour donc, passer un message, hein? Il est peut-être pas à bonne place.
Fait quand on l'a assis sur le fauteuil de la chaise électrique, comme il était pas assez grand, on a placé deux annuaires téléphoniques. On était à Atlanta, je crois, on a placé deux gros annuaires téléphoniques de la ville sur le siège pour l'asseoir sur ces annuaires téléphoniques. Et là, on a réussi à lui placer le bol sur le dessus de la tête pour pouvoir mettre le courant et l'exécuter. C'est tout à fait épouvantable. Mais à partir de là, je pense qu'il y a quand même eu une prise de conscience qu'à un moment donné, il y a des limites. Tu sais, c'est beau, on veut la justice, là, mais à la justice, à quel prix? Et est-ce que dans ce cas-là, on a réellement servi la justice? C'est sûr qu'on pourra toujours se dire, oui, mais c'est un garçon noir, puis tout ça, puis c'est vrai que, tu sais, on peut pas refaire le monde. Hein? D'ailleurs, je trouve ça toujours un peu triste de voir des gens aujourd'hui, en 2023, qui jugent des actions de gens qui vivaient au 19e siècle, ou même dans les années 30. Les gens dans les années 30 pensaient en fonction des années 30. Tu comprends-tu? En fonction d'une société, d'une communauté, puis ces gens-là. Puis je savais pas dire que j'endosse ça, là.
On en a un, justement, qui disait, c'est pas de ma faute, je me transforme en loup-garou.
Voilà, c'est ça.
Donc, un excellent lien pour le premier sujet ce soir.
Donc, on a ces éléments-là. Donc, c'est, en tout cas, bref, tu vas tout trouver ça dans mon bouquin, les enfants tueurs. Donc, ça va
s'annonce très intéressant.
Et là où je voulais te parler de mon enthousiasme, parce que j'avais, à l'époque où je faisais cette émission avec Marceau, on avait parlé de Roma Santa. Bon, justement, puis là, je veux pas trop consacrer de temps parce qu'on en a déjà parlé de Roma Santa, mais rien que pour te mettre un peu dans l'anecdote, Roma Santa, c'est comme beaucoup de tueurs, quand on regarde des séries documentaires sur des tueurs, c'est généralement des tueurs ou britanniques, ou français, ou américains. Hein? C'est une question de langue, la facilité d'avoir accès à de l'information, puis la facilité également de traduction. Donc, généralement, on a toujours à peu près les mêmes tueurs. Là, John Wayne Gacy, oui. Richard Ramirez, Charles Manson, ou du côté de l'Angleterre, Jack l'Éventreur, les tueurs des Moors. C'est souvent les mêmes tueurs. Là, et pourquoi? Ben parce que ce sont, d'une part, des vedettes un peu des crimes en Syrie. Hein, ils ont marqué leur époque. Mais en même temps aussi, c'est une question de facilité d'information pour véhiculer le message. Mais il y a plein de tueurs en Syrie qui ont sévi, par exemple, du côté de l'Inde, qui ont sévi, par exemple, en Espagne, dans d'autres pays, puis on n'en a jamais entendu parler, pour la simple raison que les rapports ont été faits dans la langue du pays, en roumain, en Russie ou autre, et c'est plus difficile d'avoir accès. Au cours des derniers mois, je t'ai parlé à deux ou trois reprises de tueurs qui avaient sévi, par exemple, du côté de la Russie ou de l'Ukraine, mais ce sont des tueurs qu'on connaît peu, parce que, justement, à cause de la difficulté de la langue, l'accès à l'information est plus difficile. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec Roma Santa. Moi, je me rappelle, comment je découvre Roma Santa, on est au début des années 90, c'est 1993, je crois. Je me trouve à Madrid pour enquêter sur une histoire d'OVNI qui s'appelle l'affaire Humo. D'ailleurs, que tu vas retrouver dans mon livre sur les fraudes du paranormal. Okay. Donc, je me retrouve là en 93 pour enquêter sur cette histoire Humo. Et je me retrouve au QG de la police de Madrid. Et alors que je suis avec les policiers, c'est pas facile, hein, les services d'information, les services de police, c'est pas comme ici, hein. Il y a pas une loi d'accès à l'information. Puis il y a comme une espèce de chasse gardée. La police fait du travail de police, puis ça se garde entre les polices, puis tu comprends, c'est comme un monde fermé. Donc, je suis là avec les policiers qui ont été quand même tout à fait gentils. Ils m'ont donné accès à des dossiers qu'ils avaient sur l'histoire Humo. Il y avait eu une investigation qui avait été faite à l'interne autour de ça. Donc, ils me mettent en contact avec les enquêteurs. J'ai accès aux dossiers, je discute. Et à un moment donné, en discutant avec eux, je lui dis que ma grande passion, c'est les crimes occultes et les crimes, les énigmes historiques. Et l'un de ces policiers me dit comme ça, il dit, alors ok, les énigmes historiques, d'après toi, est-ce que Roma Santa était, oui ou non, un loup-garou? Et là, je suis un peu surpris, mais qui est Roma Santa? J'avais jamais entendu parler de ce bonhomme-là. Et le policier a été un peu surpris de voir que, pour eux, apparemment en Espagne, tout le monde connaît Roma Santa. Mais visiblement dehors des frontières de l'Espagne.
Ça n'a pas traversé.
Ça n'a pas traversé. Et là, j'apprends, évidemment, en discutant avec eux, que Roma Santa est le premier tueur en série d'Espagne. Et il est connu comme étant le loup-garou d'Alariz. Donc, il était un loup-garou. On disait de lui qu'il était un loup-garou. Il tuait ses victimes sous la forme d'un loup-garou. Donc, je mets ça un petit peu dans une boîte à côté. Je dis, je vais revenir avec ça. Donc, je termine mon investigation. Et puis, voilà que 2011-2012, à peu près, je me retrouve en Espagne. Je me retrouve dans le nord de l'Espagne. C'est au moment où je faisais la série les Reliques Saintes. Donc, je tournais un reportage sur les apparitions mariales de Garabandal, qui se trouve dans le nord de l'Espagne. Et une autre émission sur ce qu'on appelle le suaire d'Oviedo, qui se trouve à Oviedo en Espagne. Et là, on est vraiment dans le nord-ouest de l'Espagne, qui se trouve en Galice, la région de la Galice, et c'est là que Roma Santa a commis ses crimes. Donc, comme je me retrouve en Galice, évidemment, je me replonge dans l'affaire de Roma Santa, je vais en savoir davantage, donc je rencontre des gens, et c'est là que j'apprends tous les détails de ses crimes. Et quand je demande d'avoir accès aux documents, ben un moment donné, j'étais dans une ville à Orense, on m'amène dans une espèce de musée, et là dans une boîte de vitre, il y a des documents qui sont là gardés sous verre. Puis on me dit, ben voilà, ça c'est le rapport de l'enquête et le procès de Roma Santa, qui est gardé dans une espèce de musée du crime parce que c'est un criminel célèbre, tu sais. Je vois, mais c'est beau, mais comment on y a accès? Tu n'y as pas accès. C'est dans un musée, tu comprends-tu?
Ouais.
Et là, écoute, crois-le ou non, là, depuis 2012, donc ça fait 10 ans, là, j'essaie de mettre la main sur ces derniers documents. C'est fait. C'est fait. J'ai obtenu ces documents-là après avoir fait des pieds et des mains, après avoir passé par le ministère de la Culture en Espagne. Les archives sont conservées dans ce qu'appelle la collection royale de Galice.
Wow.
Et finalement, j'ai réussi à obtenir l'autorisation d'avoir une copie de ces documents-là que j'ai reçue il y a quelques semaines. Donc ça, les gens vont retrouver ça dans mon livre sur les tueurs occultes qui va sortir à l'automne prochain. Et on a entendu la bande-annonce d'un film de 2004 qui s'appelle Roma Santa, l'enfer des loups, qui reprenait un peu l'histoire de Roma Santa, un film qui est peu connu, qui mettait en vedette Julian Sands, qui est décédé en début d'année là, lors d'une randonnée dans les montagnes de Californie. Il a disparu, puis deux mois après, on a trouvé son corps. Il avait visiblement tombé dans un ravin. Donc, Julian Sands incarnait le rôle de Roma Santa. Et pourquoi je voulais t'en parler? Ben, d'abord, pour te dire mon enthousiasme d'avoir eu d'avoir ces documents en main, hein, tu comprends?
J'espère. Faut jamais abandonner, hein?
Non, c'est ça. Puis tu sais, j'avais dans un curio chez moi une petite figurine de Roma Santa que j'avais, tu sais, qui venait d'Espagne. Puis je me suis dit, à un moment donné, j'aurai les documents, tu sais. Et là, je les ai. Écoute, tu sais, le plaisir de, au moment où tu feuillettes ces documents-là, tu te plonges dedans, tu dis, écoute, la dernière fois que j'ai vu ces documents-là, ils étaient dans un musée sous une cloche de verre. Et là, maintenant, je les ai entre mes mains, donc je peux les consulter. Et comme j'ai un ami qui parle espagnol, mais à la maison, j'ai un système qui permet de faire une lecture des documents et de les traduire dans la langue de mon choix. Bon, c'est pas parfait, c'est un peu comme du Google Translate, là.
C'est quand même cool.
Mais c'est ça, c'est cool. Donc, je peux scanner là le document et là, lui, il travaille puis il va essayer de le traduire puis il me donne une version traduite. Même si c'est souvent K1, là, c'est quand même une traduction sommaire, mais on arrive quand même à lire un peu ce que le document de quoi il parle.
Et toi, si tu veux l'utiliser, exemple pour un livre, tu vas le traduire, tu vas t'organiser pour que ça fasse vraiment plus de sens, mettons, dans la syntaxe.
Et déjà au moment où je te parle, hein, j'en ai déjà lu à peu près 2000 pages de documents. J'en ai à peu près 250 de lus. Et je dois t'avouer que déjà dans les 250 pages que j'ai lues, j'ai déjà noté dans les minutes du procès plusieurs erreurs qu'on retrouve dans la culture populaire. Hein, quand tu vas sur des sites où on parle de Roma Santa, même sur des sites espagnols, hein, tu vas sur des sites espagnols, puis tu vas utiliser par exemple Google Translate pour traduire le document, ben, je viens de découvrir qu'il y a beaucoup de ces histoires-là qui circulent, qui sont contredites, par exemple, par les rapports d'enquête, par les documents. Deux, entre autres, on disait que Roma Santa, il n'y avait aucune preuve matérielle qui avait été déposée contre lui. Hein. Il avait eu ses aveux, il dit « oui, j'ai tué au moins 13 personnes », puis il raconte « je me changeais en loup puis... ». Mais les détracteurs disaient « oui, mais est-ce que Roma Santa n'a pas été victime d'un système parce qu'il n'y a jamais de preuves qui ont été apportées contre lui, des preuves matérielles », alors que c'est tout à fait faux. À deux reprises durant la commission d'enquête, Roma Santa a conduit les policiers et les magistrats sur des lieux de ces crimes, là où on a trouvé, même si c'était ancien, hein, Roma Santa a été jugé en 1853, ces crimes ont été commis entre 1845, grosso modo, et 1850, mais à deux reprise, Roma Santa a amené des magistrats, des policiers, à l'endroit où il avait commis des crimes, en disant « ben voilà, il y a 6 ou 7 ans, c'est ici que j'ai assassiné Madame une telle avec son fils, etc. » Et en fouillant les lieux, on a trouvé des ossements humains.
Ah,
à deux reprises.
OK.
Il faudrait un sapristi de bon hasard pour que Roma Santa amène des policiers quelque part et par hasard, on trouve des ossements. T'sais. Donc, il essaye de le faire à deux reprises. Donc, on note déjà des preuves matérielles assez claires. Évidemment, la médecine médico-légale de 1850 n'est pas la médecine légale d'aujourd'hui. Mais déjà, le fait qu'on ait trouvé sur des sites incriminés par Roma Santa comme étant des lieux où il avait commis ses crimes, qu'on retrouve des ossements humains, c'est déjà quand même beaucoup. Et un autre élément qu'on disait de Roma Santa et qui est beaucoup plus incertain quand on lit les rapports. On disait que Roma Santa tuait ses victimes, les dépeçait, les dévorait parce qu'il était un loup-garou, donc ça donnait des actes de cannibalisme.
On s'entend pas non plus dans le modus operandi de tout le monde, hein, dans les victimes.
C'est ça. Puis il s'adonnait à sur les victimes féminines, ça donnait à des actes de nécrophilie.
OK.
Et on disait que Roma Santa utilisait, une fois qu'il avait tué ses victimes, il conservait les graisses. Les graisses corporelles de ses victimes
pour faire
du savon. Et en fait, cette idée-là, hein, a tellement été véhiculée du côté de l'Espagne que t'as peut-être vu le film Le Parfum, là, où on prend des graisses humaines, et on a fait une série télé également, où le parfumier va prendre des graisses humaines pour recréer un parfum. Là. Mais ça vient de cette idée-là, hein, du tueur qui garde les graisses humaines, puis on se disait que les graisses humaines, si on l'utilisait sur la peau, ça pouvait faire disparaître des cicatrices ou des marques laissées par l'acné ou autre. Il y avait des vertus un peu extraordinaires sur des savons ou des crèmes faites à partir de graisses humaines. Et on a accusé Roma Santa d'avoir fait ça. Alors que quand on lit les minutes du procès, Roma Santa s'est défendu d'avoir fait ça. Il dit, il reconnaît avoir commis les crimes dont il se reconnaît le coupable. Il dit au magistrat, je les ai tués. Je n'ai pas utilisé d'armes autres que mes crocs et mes griffes, étant sous la forme d'un loup-garou. Mais je n'ai jamais conservé les graisses de mes victimes pour en faire du savon. Ça, visiblement, c'est une légende populaire qui circulait durant le procès de Roma Santa. Et malheureusement, ça a glissé et c'est devenu un fait que l'on attribue à Roma Santum, mais qui apparaissent, qui, en tout cas, au moment où dans mes lectures, là, sur les minutes du procès, puis je peux pas, on peut pas être plus proche que ça, hein. C'est le procès, là, c'est le compte rendu, on pourrait appeler ça aujourd'hui la secrétaire juridique ou la sténo, là, qui traduit tout ce qui se dit durant le procès. Et Roma Santa, et à ce moment-là, il se s'est perdu, hein. Il essaie pas d'esquiver, hein. Ça change rien au procès, hein. Qu'il reconnaisse qu'il a fait du savon avec les graisses humaines ou non, ça ne changera rien. Il le sait à ce moment-là qu'il est perdu. Il sait qu'il va être condamné à mort. Il était d'ailleurs condamné au supplice du garrot, hein, qui est tout à fait épouvantable. Écoute, c'est comme une chaise. Imagine-toi une chaise, un peu comme la chaise électrique, sauf que la tête du suspect est placée sur un montant en bois. On lui met une lanière de cuir autour du cou qui est attachée derrière et à une espèce de vis. Et quand on tourne la vis, ça évidemment, sert. Ce garrot serre autour de la gorge pour étrangler la personne. Mais pire que ça, de l'autre côté, il y a une vis pointu, un peu comme la pointe d'une flèche, qui, elle, avance et entre par l'arrière du cou du supplicié.
Ah, mon Dieu!
Donc, il est d'un côté, par l'avant, il est étranglé par cette lanière de cuir, en même temps qu'une vis sans fin lui traverse l'arrière de la nuque jusque par le devant. Là.
On a c'est été créatifs pour faire ce que les
c'était,
gens...
C'est un supplice épouvantable. Mais à ce moment-là, donc, Roma Santa sait qu'il est perdu. Il ne gagne rien à essayer de dissimuler des actions ou des crimes qu'il a commis. D'ailleurs, écoute, moi, je lis les minutes du procès et il y va avec fort détail, hein, parce qu'il dit, même s'il était un loup-garou, quand il reprenait forme humaine, il avait le souvenir de tout ce qu'il avait commis et il le raconte dans les moindres détails, là. Donc, c'était mon enthousiasme. Donc, je voulais t'en parler parce que, effectivement, on va retrouver ça dans mon livre sur les tueurs de l'occulte. Mais c'était vraiment extraordinaire d'avoir accès, après tant d'années, aux archives aux archives royales de Galice sur les crimes de Roma Santa. Et ça m'amène à mon autre sujet de ce soir, qu'on va retrouver aussi dans mon livre sur les tueurs de l'occulte, mais beaucoup plus en détail. Mais je voulais aussi t'en parler puisque je trouvais que l'occasion était bonne. On parlait de Roma Santa, de ces tueurs qui sont tout à fait terrifiants, mais qu'on ne connaît pas parce que il y a cette barrière de langue. Quand ce n'est pas l'anglais ou le français, ou ce n'est pas les grands pays européens, bien souvent, l'information se véhicule moins. Et les autres tueurs que je vais te parler ce soir, ce sont des tueurs que j'ai croisés dans mon investigation sur les tueurs de l'occulte et que je n'avais jamais entendu parler. Ce n'est que... C'est durant un voyage, d'ailleurs, un peu par hasard. Je me retrouve à Athènes, en Grèce, et alors que, évidemment, comme n'importe quel touriste en Grèce, on visite le Parthénon, l'Acropole, tout le reste. Et là, au moment où je fais ça, je parle avec des gens qui sont là, d'autres touristes, et à un moment donné, je leur parle... On est à ce moment-là, on doit être en 2012-2013, dans ces alentours-là, et on me dit, j'étais en train de travailler à la réflexion d'une série sur les tueurs de l'occulte, et à ce moment-là, quelqu'un me dit, ah ouais, allez-vous parler des satanistes de Paligny? Mais là, je dis, attends une minute, les satanistes de Paligny, moi, j'ai jamais entendu parler de ces gens-là.
C'est quoi ça?
C'est qui ces gens-là? Et là, j'apprends que c'est le crime occulte qui a, d'ailleurs, la presse grecque avait qualifié ces crimes-là de les crimes qui ont fait que les Grecs dormaient la lumière allumée. Hein? Je te traduis, là, grosso modo, là, tu sais, les grands titres des journaux, c'était ça, là. C'était des crimes épouvantables. Et on n'en avait jamais entendu parler. Tout ça parce que, bien sûr, ça a été évoqué dans la presse grecque. Mais bien sûr, l'écriture grecque, c'est pas... Bon, si tu parles pas le grec et tu lis pas le grec, ça devient plus difficile. Hein, déjà que l'orthographe grecque, hein, n'est pas l'orthographe latine là, qu'on utilise. Donc, ça devient assez compliqué. Et là, j'apprends cette histoire-là qui est tout à fait épouvantable. Donc, je sais que le temps file, mais je vais quand même t'en parler parce que ce sont des crimes monstrueux et qui autre temps, autre mœurs.
Mais quand même assez moderne, hein? Là, on est
assez moderne,
dans le 19e siècle.
On n'est plus au 19e siècle, hein, les crimes dont je te parle. On n'est même plus à la période de la grande peur satanique qui a marqué les années 80 aux États-Unis. On est même un peu plus tardif que ça. On est dans les années 90. Et à ce moment-là, Il y a les jeunes, hein, il y a une l'invasion de la musique heavy metal entre progressivement du côté de la Grèce. Toute la musique que l'on qualifie souvent un peu à tort quand même, mais on peut comprendre cette musique qu'on dit satanique, le heavy metal, le thrash metal et toutes ces musiques-là. Et il faut se rappeler que dans les années 70, hein, on avait le satanisme assez rapide, hein. Led Zeppelin, c'était le satanique, Kiss, c'était satanique, tu sais, bon, toutes ces musiques-là devenaient des musiques sataniques. Donc, on a cette invasion de musiques particulièrement anglo-saxonnes qui arrivent en Grèce. Et là, évidemment, les jeunes Grecs vont écouter ça. La seule, je dirais, incursion qu'on avait eu un peu dans cet univers-là, c'était dans les fins des années 70, début des années 80. Il y avait eu un groupe en Grèce qui avait fait un disque qui s'intitulait 666 et qui parlait évidemment de musique un peu satanique, là, tu sais, mais en fait c'est une reprise de l'Apocalypse de Jean, et on disait bon ben voilà, cette musique là c'est une musique satanique, puis c'était un peu psychédélique, c'est en Grèce, et le chanteur, le groupe en question qui avait fait cette musique là c'est un groupe qui s'appelait Aphrodite Child. Okay. et le chanteur c'est Demis Roussos. Je sais pas si tu connais Demis Roussos.
Non.
Mais Demis Roussos, écoute, pour les gens, les Québécois là, Demis Roussos, le souvenir qu'on a de ce gars là c'est qu'il faisait des espèces de chansons d'amour dans les années 90, là, tu sais, Goodbye, my love, goodbye. Rien à voir avec le satanisme, mais bon.
Ouais, non,
il a fait partie d'un groupe un peu de musique psychédélique, comme je te mentionne, à la fin des années 70, début des années 80, qui est Aphrodite Child. C'était à peu près la seule véritable musique ou incursion dans cet univers plus ou moins diabolique auquel les Grecs avaient été confrontés. Et là arrive cette invasion anglo-saxonne de musique heavy metal. Il faut aussi savoir que dans la culture grecque, culture orthodoxe, hein, c'est un pays qui est très croyant, on est très chrétien, mais c'est un christianisme orthodoxe. Et dans le christianisme orthodoxe, le diable ne tient pas la même place que dans le christianisme latin ou romain. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que à la Renaissance, lorsque tous les pays d'Europe ont eu des chasses aux sorcières, hein, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Grèce n'en a eu aucune.
Ah.
Il n'y a pas eu de chasse aux sorcières en Grèce parce que le diable, c'est un personnage tout à fait secondaire. Donc, il n'y a pas une véritable culture du diable.
Ben, y a-t-il encore un peu d'influence aussi, tu sais, justement, avec les anciennes divinités grecques?
Non, plus du tout. Ça, c'est vraiment un autre univers un univers d'autrefois.
Okay.
Et là, j'arrive à mes fameux tueurs en question. L'affaire commence d'abord, les Grecs vont découvrir cette histoire-là de manière un peu légère. En 1992, on est toujours dans la région d'Athènes, et dans la région d'Athènes, partie dans les quartiers, je dirais, ou les banlieues à l'est, hein, du sud-est, il y a des montagnes, il y a des boisés, et à un moment donné, il y a un incendie qui se déclare. On est en août 1992. Le temps que les pompiers arrivent sur place, on maîtrise l'incendie, c'est un incendie de forêt. Ça a commencé visiblement par un feu de broussailles, et là, on maîtrise les flammes. Et alors que les pompiers arpentent le terrain qui brûlait, on va trouver le cadavre d'une jeune femme. Elle est recroquevillée, elle est nue, et elle a été brûlée. Mais visiblement beaucoup plus brûlée qu'elle ne l'aurait été par l'incendie. Alors, la première question des policiers, c'est est-ce qu'elle était dans le boisé et brûlée par le feu, ce qui ne semble pas être le cas, mais les policiers ne sont pas des légistes. On se pose aussi la question, est-ce que c'est elle qui a déclenché l'incendie, et est-ce qu'elle n'aurait pas commis un suicide par immolation, donc elle se serait aspergée d'essence et aurait mis le feu. Donc, le corps est ramené à la morgue et tout est concentré à Athènes. Même les banlieues, les services médico-légaux et même les services de la police hellénique, police grecque, se trouvent à Athènes, au centre d'Athènes. Donc, tout est transféré là, et le médecin légiste constate que la jeune fille a été asperger visiblement d'un produit accélérant, de l'essence sans aucun doute. On va découvrir également qu'elle, puis on le dit tout de suite, là, c'est pas une émission pour des enfants. Là.
Non, non.
Et, il y a eu également, il y a des abrasions au vagin et dans à l'anus, ce qui montre qu'elle a été violée et elle a été sodomisée. Le médecin est catégorique, ce sont des lésions qui sont post-mortem, donc c'est un acte de nécrophilie. Et ensuite, on pourrait croire qu'elle a été, elle a autour du cou des marques de strangulation, donc on pourrait penser qu'elle a été étranglée, mais au moment où le médecin légiste va faire l'autopsie du corps, va découvrir que dans ses poumons, c'est pas, il n'y a pas de suie, il n'y a pas de feu. Donc, elle n'est pas morte étouffée parce qu'elle a respiré de la fumée. Elle n'a pas été, elle n'est pas morte non plus étranglée. Elle a les poumons remplis d'eau. Elle a été noyée avant d'être jetée dans la forêt, ensuite aspergée d'essence et brûlée. Donc, et les médecins, le médecin légiste et les enquêteurs vont déterminer qu'il s'agit d'une adolescente de 14 ans qui s'appelle Dora Seropoulou. Et la dernière fois qu'elle a été vue, elle est vivante, hein, c'est la soirée du 27 août 1992. Elle a été vue sortant du collège qu'elle fréquentait. Et elle ne cachait pas avec des amis qu'elle était intéressée par les sciences occultes, tout ce genre de trucs-là. Encore une fois, il faut bien préciser que cette culture-là, elle n'est pas aussi omniprésente en Grèce qu'elle est dans d'autres pays d'Europe. Donc, c'est toujours un peu étrange. Elle dit, ben moi, je m'intéresse à ça, la musique heavy metal, le satanisme, la sorcellerie, la magie. Et donc, la dernière fois qu'on la voit, c'est ce soir, cet après-midi, cette fin d'après-midi du 27 août 92. Elle est vue sortant du collège. Elle monte dans une voiture, une petite voiture blanche. Il y a des jeunes à l'intérieur de la voiture, sans trop donner de détails. Les gens qui la voient, évidemment, ne pensent pas à prendre le numéro de la plaque ou de détailler le conducteur, mais on voit qu'il y a des gens à bord, puis qui paraissent être relativement jeunes. Et quelques heures plus tard, ben, les pompiers vont trouver, près de la forêt d'Imitos, on va trouver son corps à moitié carbonisé dans ce qui semble être un feu de broussailles qui s'est transformé en feu de forêt. Donc, c'est à peu près l'investigation qu'on a et cette enquête-là va piétiner pendant des mois. Et c'est assez aberrant parce que durant ce temps-là, on n'y croit tellement pas au diable, on n'y croit tellement pas au crime satanique que quand les policiers commencent à enquêter sur la mort de Dora Seropoulou, des gens qui l'entourent vont dire « Ouais, mais elle nous a confié qu'elle avait fait la rencontre récemment de gens qui s'intéressaient aux satanistes, aux satanistes qui se réunissaient. » Et les policiers vont immédiatement écarter cette piste-là en disant « Non, 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 c'est soi-disant soirée satanique, on sait où ça se passe, ça se tient du côté de Paliné, ce sont une gang de jeunes qui oscillent entre 16 et 22, 23 ans, qui se réunissent dans des usines désaffectées, des endroits abandonnés, on en profite pour boire de l'alcool, écouter de la musique heavy metal, on fait le party, c'est du diète. » Donc, on s'est écarté, c'est pas ça. C'est des jeunes qui s'amusent, qui font la fête, ça n'a rien à voir avec ce crime tout à fait horrible de Dora Seropoulou. Donc, on écarte ça. Et même, durant leur investigation, des gens vont leur dire « Oui, mais il y a des gens de cette communauté de satanistes là, dans la région de Paliné. Il y a trois individus qui sont particulièrement louches. Hein. Il y a un certain Emmanuel Dimitrokalis, qui, à ce moment-là, a à peu près 17-18 ans. Il y a Assimakis Katsoulas, qui semble être le leader du groupe, qu'on appelle Makis, qui est un petit peu plus vieux, il y a à peu près 19 ans. Et il y a une jeune femme, 16-17 ans à ce moment-là, qui s'appelle Dimitria Marietti.
Tout du monde jeune.
Ouais, qui fait partie. Et ce qui retient l'attention, pourquoi ces trois noms-là? Parce que, bon, Katsoulas semble être le leader du groupe, mais ces trois jeunes-là forment un trio, hein, tant dans la vie que dans leur lit. Ça choque un peu les mœurs, tu sais, bon, ils sont bizarres. Et même, et noir sur blanc, là, les policiers ont ces noms-là sous la main, mais on met ça de côté, ça peut pas être un crime occulte, rien à voir. Des mois s'écoulent et on fait un bond en avant, on est le 14 avril 1993 et à ce moment-là, à moins d'un kilomètre de l'endroit où on a retrouvé en août précédent le corps de Seropoulou, on trouve le corps d'une autre femme. je rentrerai pas trop dans le détail, là, les gens liront mon livre, mais disons qu'elle a le crâne éclaté.
Ah. Hein,
on lui a défoncé le crâne avec une pierre. Elle est nue. Encore une fois, on amène le corps à la morgue. Hein, ce sont des randonneurs qui trouvent le corps. Et lorsque le corps est amené à la morgue, là aussi, on va trouver... elle est morte d'un traumatisme crânien. Là. Écoute, dans le rapport de police, c'est marqué, le rapport du légiste, il est écrit, je te le dis, là, textuellement, c'est « Le crâne a éclaté comme un œuf ».
C'est ça qu'il y a de la violence là-dedans.
Le crâne, là, ça a fait crack, là, puis ça a éclaté comme un œuf. La boîte crânienne a éclaté comme un œuf. Donc, et ça, c'est tel quel que le légiste le dit. Donc, le corps est amené là. Elle est morte de ce traumatisme. On voit également des marques d'abrasion autour des poignets, comme on avait trouvé aussi dans le cas de Siropoulou, qui laissait croire qu'elle avait été attachée soit par des menottes, soit par des cordes ou des bandes en plastique, là, des tie wraps comme on dit. Donc, il y avait cette idée-là. On retrouve exactement les mêmes éléments sur cette jeune femme, qui est un peu plus âgée. On va éventuellement déterminer qu'elle a 28 ans. Et là aussi, visiblement, il y a eu agression sexuelle. Il y a des marques, des lésions, encore des lésions vaginales et anales. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que l'agression sexuelle a eu lieu avant et post-mortem. Donc, elle a été agressée à plusieurs reprises pendant qu'elle était vivante et ensuite après qu'elle soit morte. Et donc, éventuellement, les policiers vont réussir à établir l'identité de cette jeune femme. Elle s'appelle Garifalia Gyorga. Elle travaillait dans un hôtel. C'est une commis de chambre dans un hôtel très important qui s'appelle le Great Britain à Athènes. Par hasard, j'ai descendu au Great Britain. J'ai séjourné 2 nuits au Great Britain. Donc, c'est un hôtel très, très connu.
Sentais-tu quelque chose de bizarre dans l'atmosphère? Ou...
Non. Non, mais tu sais, c'est quand même... j'avoue, j'étais descendu, je suis allé deux jours à l'hôtel parce que je voulais parler avec des gens. Peut-être que des gens avaient connu Gyorga. Puis okay. Bon, j'ai rencontré justement une femme de chambre qui avait déjà travaillé avec elle. Donc, ce qu'on va apprendre, ce que la police va apprendre, c'est que ce soir-là, elle a quitté son service vers 22 heures. Et c'est une mère de 2 jeunes enfants. Et elle faisait toujours la même routine. Elle quittait l'hôtel. Elle marchait sur à peu près 2 pâtés de maison. Elle s'arrêtait à un arrêt d'autobus parce qu'il y a plusieurs circuit, et sur ce circuit-là, donc le circuit, disons, 93, c'est celui qui amenait, qui allait jusque dans la banlieue est de Athènes, où elle habitait, et c'était généralement sa mère qui s'occupait de ses 2 jeunes enfants, elle était séparée depuis peu de son mari, d'ailleurs, une relation amoureuse qui était très, très houleuse. Les policiers vont suspecter, à un moment donné, le mari d'être à l'origine du crime, mais il va être écarté, il y a un alibi en béton. Mais déjà, donc, on vérifie les antécédents. Il y a eu le mari qu'on a suspecté, mais en dehors de ça, malgré qu'elle a 28 ans, c'est une femme qui est, entre guillemets, célibataire. Elle fréquente elle sort parfois avec des amis, va dans des clubs, mais... Il n'y a rien dans ses comportements qui la place dans une trajectoire qui ferait d'elle une victime susceptible, tu sais, ou des comportements qui pourraient la rendre plus vulnérable à une activité criminelle. Donc, c'est ce qu'on va découvrir. Donc, c'est elle. Et la dernière fois qu'on l'a vue, elle sortait de l'hôtel, elle a envoyé la main à ses collègues de travail. Et là, on suppose qu'elle a marché jusqu'à l'arrêt d'autobus où, éventuellement, elle s'est arrêtée. Et ensuite, elle a disparu. Donc là, les policiers se mettent à enquêter sur la mort de Gyorga, comme on a là aussi des agressions sexuelles post-mortem, sodomie et agressions sexuelles vaginales, qu'on a également des marques de lacération autour des poignets. Et comme le corps a été retrouvé tout près de la forêt des Mythos, à moins d'1 kilomètre de là, on avait découvert quelques mois plus tôt Siropoulou, les policiers d'Athènes se disent qu'il doit y avoir un lien dans les crimes. Et encore une fois, lorsqu'on se met à enquêter là-dessus, les noms des satanistes reviennent, mais personne, on se dit, non, Gyorga faisait pas partie de groupes comme ça. Elle ne s'intéressait pas à la musique diabolique ou quoi que ce soit, aucun intérêt pour l'occultisme. Donc, c'est sûr que c'est pas ça. Mais pourtant, il y a des éléments, hein, les 2 corps trouvés dans la même forêt, les agressions, il y a des éléments qui semblent dire qu'il doit y avoir un lien entre les crimes. Et éventuellement, La police piétine. Encore une fois, elle passe par-dessus le filtre de ces tueurs satanistes et éventuellement, en décembre de 1993, donc grosso modo 8 mois après le meurtre de Giurga, donc la deuxième des femmes assassinées, il y a un des membres du groupe sataniste, hein, Dimitro Kalis, il fait son service militaire. Il faut savoir qu'en Grèce, le service militaire est obligatoire. Okay. Donc, il est dans son service militaire. Il a 19 ans à ce moment-là. Il rentre chez lui pour les fêtes de Noël. Et lorsqu'il arrive chez lui, ses parents, qui sont très religieux, reçoivent un prêtre orthodoxe qui vient donner les bénédictions de Noël. Et Dimitro Kalis commence un petit peu à avoir des... Il est troublé, hein? Il y a un combat intérieur. Est-ce que sa vie est mieux depuis les meurtres, depuis qu'il a rejoint ces espèces de satanistes? Est-ce que sa vie est mieux? Puis il y a aussi cette relation à trois avec Marietti comme muse qui commence à lui peser. Donc finalement, il sent là-dedans comme un geste ou un message divin vers lui. Alors, crois-le ou non, le soir, le 23 décembre 1993, Dimitro Kalis se rend lui-même un poste de police local. Il dit aux policiers, vous savez, les meurtres de la forêt des Mythos, j'ai beaucoup d'informations là-dessus. Et il avoue comment lui, Katsoulas et Marietti ont commis ces trois crimes-là. Et là, je vois que le temps file. Donc, je pourrais pas te raconter dans tous les détails comment ces crimes-là ont été commis, mais c'est des crimes tout à fait odieux. Hein, ils ont pris, dans le cas, par exemple, simplement pour te parler de Giurga, cette jeune femme de 28 ans, Dimitro Kalis et Katsoulas s'étaient fait faire de faux papiers de la police. Ils l'ont interceptée alors qu'elle était à l'abribus, et ils lui ont fait croire qu'ils étaient des policiers qui avaient eu du trafic de narcotiques dans le quartier. Ils lui ont demandé ses papiers, de la voir, etc. Puis ils ont dit, on va t'amener au poste pour pouvoir t'interroger. Et là, quand elle est montée à bord de la voiture, hein, elle a cru que c'était des policiers, ils avaient des cartes qui semblaient tout à fait officielles. Elle est montée dans leur voiture, et là, quand elle a compris que ces gens-là n'étaient pas des policiers, parce que rapidement, les rues achalandées d'Athènes ont fait place à des rues de la banlieue.
Ben oui.
Et là, elle a compris qu'on n'allait pas au poste de police. De la police hellénique. Donc, éventuellement, ils l'ont conduit dans un entrepôt qui était abandonné. Mais bon, bref, ils l'ont obligé à se déshabiller. Katsoulas et Dimitro Kalis lui avaient dit qu'ils allaient pas lui faire de mal, mais une fois qu'elle a été déshabillée, ils ont fait une fouille au corps, et là, ben, ça a dégénéré. Ils l'ont agressée, violée. Ensuite, ils l'ont emmenée elle était nue, ils l'ont fait remonter dans la voiture, ils l'ont amenée dans la forêt de Imitos, là, tout près de l'endroit où ils avaient assassiné quelques mois plus tôt Siropoulos. Et là, ils l'ont agressée à nouveau. Ils ont essayé de l'étrangler, ils l'ont étranglé avec son soutien-gorge, et quand ils l'ont jeté en bas de la voiture, elle respirait encore. Et alors là, c'était un peu morbide de dire ça, mais là, Katsoulas a commencé à l'étrangler. Il disait à Dimitro Kalis, va prendre une roche qui est tout près, puis frappe-la sur la tête. Mais Dimitro Kalis a resté figé, il dit, je peux pas faire ça. Alors Katsoulas s'est levé, a pris lui-même la pierre, il s'est mis par-dessus elle. Comme il était étendu sur le dos, il s'est mis à lui frapper la tête jusqu'à temps, comme le dit le médecin légiste, que la tête éclate comme un œuf. À ce moment-là, son objectif était non seulement de la tuer, mais également de la défigurer. Et après ça, ils ont pris ses vêtements, son sac à main, tous les papiers, puis ils se sont débarrassés de ça le soir même. Et ce crime-là, il était commis donc durant la semaine sainte 1993, parce que l'objectif de ces satanistes, tu l'auras compris, c'est que ces crimes, dans le cas de Siropoulos, il disait que c'était une vierge, et dans le cas de Giurga, évidemment, il n'était pas vierge, puisqu'il avait déjà deux enfants, mais comme le crime a été commis durant la semaine sainte, c'était une autre motivation pour que le crime ait une symbolique satanique. Ouais. Et ce n'est qu'au moment où les policiers les ont arrêtés qu'ils ont compris qu'ils avaient, leur nom sur papier depuis déjà des semaines, voire des mois, mais évidemment, comme la Grèce n'a pas cette culture-là du satanisme, jamais les policiers de la capitale d'Athènes n'ont pensé à relier ces crimes-là à un groupe satanique.
Christian, il nous reste une minute rapidement. J'ai des auditeurs qui m'écrivent. Il y en a un des coupables, en fait, qui a été libéré même récemment.
Sont tous libérés.
Actuellement,
ils,
oui.
Ils ont tous été libérés. Marietti, Katsoulas et Dimitro Kalis. Le dernier à avoir été libéré, c'est le leader du groupe, Katsoulas.
Et
crois-le ou non, Katsoulas, pendant qu'il était en prison, à deux reprises, il a commis des crimes.
Ben non.
Mais pour, Oui, pendant qu'il je prends 30 secondes pour te dire ça. Pendant qu'il est en prison, il va utiliser son droit de pouvoir faire des appels téléphoniques pour fouiller, trouver des adolescentes. Il les appelle, se fait passer sous un faux nom, et là, il les entretient de discours tout à fait pornographiques, pédophiles, tout le reste, là. Et la police va enquêter, ils vont découvrir que les appels sont logés depuis la prison, ils vont questionner Katsoulas, mais comme les appels vont arrêter après que Katsoulas ait été interrogé, les policiers ne porteront pas d'accusation contre Katsoulas. Éventuellement, Katsoulas, quelques mois après, va bénéficier de liberté provisoire qui dure 5 jours sans supervision. Sans supervision? Alors qu'il quitte la prison à bord de la voiture de sa mère, il arrive sur l'autoroute, il croise une jeune femme dans une voiture seule, il l'intercepte, il lui dit qu'il est policier, même technique qu'il a utilisée pour enlever Gouria, il lui dit qu'il est un policier, qu'il veut l'amener au poste pour l'interroger, la jeune femme se met à pleurer, elle lui dit qu'elle est albanaise, qu'elle a pas de papier en règle, il la fait monter dans sa voiture, et là, quand elle comprend qu'ils vont pas au poste de police, la jeune femme perd conscience. Katsoulas l'amène dans une ville pas loin. Il ne l'agresse pas. Il ouvre la portière, il la jette en bas de la voiture, ferme la porte, puis il sac son camp. La jeune femme s'en va au poste de police, reconnaît, en fouillant dans des photos d'identifié, elle reconnaît Katsoulas comme l'homme qui l'a enlevé. Katsoulas est arrêté le soir même chez ses parents. Il est ramené au pénitencier. Mais entre-temps, la jeune fille a appris que son agresseur était l'un des terribles satanistes de Palini. Donc, elle préfère fuir la Grèce plutôt que d'aller témoigner en cour. Et pour une deuxième fois, Katsoulas va échapper à la justice puisqu'il n'y aura pas d'accusation portée contre lui. Donc, 2 crimes commis pendant qu'il est en prison pour un concours de circonstances incroyables. Il réussit à passer à travers les mailles du filet et tout ça n'a aucun effet sur sa libération conditionnelle dont il vient de bénéficier il y a quelques mois à peine.
Si on avait 2 heures de plus, Christian, pour partir sur une envolée sur les libérations conditionnelles, même au Canada, on a de la misère avec ça. Hein?
Ouais. Mais ces crimes-là, écoute, c'est vraiment des crimes extraordinaires, mais bon, j'ai plus le temps, mais à lire dans mon livre « Les tueurs de l'occulte, les tueurs, les satanistes de Paligny ».
D'ailleurs, j'ai une demande spéciale pour toi. Les auditeurs me le demandent aussi par texto. Pourrais-tu mettre les titres, ou provisoires ou pas, de tes livres et les dates de sortie sur notre page de Radio X-Files?
Absolument, je peux faire ça.
On fait ça. Et d'ici là, ben merci. Vraiment, c'est fascinant et épouvantable à la fois. Le fascinant dans le sens que je suis découragée de l'humain, mais tu es un excellent conteur, Christian, puis je te remercie d'être là à chaque vendredi. Et je te souhaite un bon week-end.
Toi aussi. Ciao. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Radio X-Files. Radio X.